Mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Ils
sont dans les campagnes, dans les villes. Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexisme, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, au sommaire ce soir. Photographier des couples lesbiens dans leur intimité, c'est le projet d'un recueil de photographies qui paraît ces jours-ci. Sapphic Lovers et d'autres et autres. Oulala, comment ça commence cette émission et autres histoires d'amour lesbienne. Léa Michaelis a parcouru la France pour rencontrer une quarantaine de couples dont elle a voulu immortaliser les histoires et ce faisant créer de l'archive queer ou, comme elle le dit elle-même, documenter les amours sapphiques pour garder trace de nos existences. Bonsoir Léa Michaelis.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Avec plaisir, soyez la bienvenue, Sapphic Lovers, apparue en cette fin d'année chez Les Insolentes. Et on est ravis de s'y plonger avec vous ce soir. Avant ça, je vous présente l'équipe de ce soir, à commencer par celle qui a porté un regard attentif à votre travail. Salut, Antonella.
Bonsoir Colin, bonsoir Léa.
Bienvenue, trop contente de te retrouver. Est-ce qu'il y a une image de Sapphic Lovers qui a retenu particulièrement son attention?
Oui, c'est une image qui est très esthétique. Il y a deux visages en contre-jour, prêts à s'embrasser, qui sont comme... kaléidoscopés, Défractés, on les voit en multipliés et je sais pas, il y a quelque chose de très harmonieux, on dirait un groupe de personnes et à la fois c'est quelque chose de très intime, je sais pas, moi ça me fait penser au fait qu'on dirait qu'il y a autant de lesbiennes, enfin que de façon d'être lesbienne que de lesbiennes et c'est très joli.
C'est un peu ça, je vous ai vu deviner de la tête, Léa Michaelis.
Oui, bah en réalité on voit ce qu'on a envie de voir. Moi, j'avais envie de mêler quand même, de faire de la photo documentaire, mais aussi artistique, et de penser à la lumière, penser à la composition, que ce soit pris sur le vif, mais aussi quand je sentais que certaines personnes étaient partantes d'aller dans la mise en scène. Donc oui, c'est kaléidoscopique. Clairement, parce que j'ai mis quelque chose devant l'objectif pour que ce soit le cas.
Et on continue à en parler dans un instant. À tes côtés, Antonella, il y a Mal. Salut Mal.
Bonsoir.
De quoi vas-tu nous parler ?
Ce soir, je vous parle de ma première puberté, et si vous êtes sage, je vous parlerai des prochaines.
Ok, et ben on a hâte, et juste à côté de toi, Mal, il y a Chat, salut.
Salut Colin.
Alors, quel est le programme ?
Et ben moi, j'ai été très très sage, et je vais vous parler de ma liste au Père Noël.
Et ben super, merci beaucoup. Dans quelques instants, à 20h10, l'actualité du mois, c'est du cinéma avec toi, Juliette. Salut.
Salut Colin.
On me parle d'un film auquel personne n'a pu échapper.
Absolument, Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, merveilleux mélodrame musical queer.
C'est dans un instant, et puis à 20h45, l'agenda avec toi Zoé, salut.
Coucou.
Alors de quoi est-ce qu'on parle ?
On va parler d'un atelier initiation au Shibari qui aura lieu le samedi 14 décembre de 13h à 15h à la Mucinerie.
Eh bah super programme, voilà, et vous l'avez en entier, on est ensemble jusqu'à 21h, bienvenue.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Léa Michaelis, Sapphic Lovers, c'est donc le nom de votre recueil de photographies, mais avant d'en arriver là, on va revenir un petit peu sur votre parcours. En lisant l'avant-propos de ce recueil, j'ai eu l'impression que l'identité queer et la photographie étaient arrivées toutes les deux très tôt dans votre vie.
Alors, ce qui est sûr pour la photo, oui, c'est arrivé très tôt.
Vers 9 ans.
Ouais, vers 9 ans. Par mon père qui m'a initié du coup à la photo. Et la queerness, j'ai fait un coming out bi à 13 ans.
Ouais.
Que j'ai pu vivre pleinement à partir de 20 ans, où avant ça j'étais enfermée dans un couple hétéro toxique avec des violences conjugales. Donc il y a toujours eu ces deux désirs en moi qui ne sont pas les mêmes désirs d'accomplissement, que ce soit la photo ou le fait d'être enfin qui je suis. Mais je savais qu'à terme, oui, les deux allaient aussi se rencontrer.
On va parler tout à l'heure de comment se déroulaient les séances photos avec Antonella. Vous avez commencé à nous en dire quelques mots. En tout cas, j'avais l'impression que votre parti pris, c'était beaucoup la mise en scène. Vous en avez dit un mot à l'instant. Alors que vous êtes passé par le photojournalisme.
Oui, en fait, la réalité, c'est que je voulais faire une pause avec le photojournalisme, la photo d'actualité, quelque chose de... où on ne peut pas trop contrôler ce qu'on est en train de prendre en photo. On essaye quand même de faire une photo esthétique, mais qui raconte l'actualité dans un instant T. Là, le but, c'était quand même de se poser et de faire de la photo documentaire sur 2-3 ans. J'ai commencé le projet fin 2021, je l'ai terminé en 2024. Enfin voilà, c'était vraiment de se poser sur un sujet longtemps, d'y réfléchir. Et en réalité, la mise en scène, bon, j'étais chez les couples. C'est des photos qui ont été faites dans des domiciles que je ne connais pas. Donc, je faisais aussi avec les moyens du bord.
Avec les contraintes.
Avec les contraintes, par exemple, hivernales. Donc, avec la lumière qui... Avec la nuit qui tombe très tôt. Et puis, le but, ce n'était pas d'ajouter de l'artifice. Donc, par exemple, il n'y avait pas de flash. C'était vraiment de la lumière naturelle. C'est des choses importantes pour moi pour rester justement dans une intimité, dans un cocon. D'où l'importance aussi d'aller chez les gens pour avoir des espaces aussi qui leur ressemblent.
2021-2024, donc 3 ans de travail sur ce recueil, ça donne une quarantaine de couples qui ont été rencontrés. Mais vous avez aussi choisi de présenter le vôtre. Pourquoi ?
Parce que le projet part de là, je pense, comme pour plein d'autres ouvrages qui existent ou comme œuvre, c'est partir aussi de son expérience. Et moi, c'est justement parce que je suis très, très bien dans cette relation avec mon ma chérie que je voulais vraiment essayer de comprendre est-ce que dans d'autres couples queer aussi, il y a ce basculement-là quand t'es enfin là où tu dois être, en fait. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et je me suis dit, mais il y a tellement... C'est comme si y avait j'étais libérée d'un certain poids, de chaînes, une nouvelle façon de voir le monde à deux... Puis aussi rentrer dans une relation saine. Alors,
on peut aussi photographier l'harmonie aussi.
L'harmonie, mais aussi on peut mettre les pieds dans le plat et dire qu'une relation queer n'égale pas une relation saine. Il y a des relations queer où c'est pas le cas, mais quand même, en majorité, on est dans un espace qui est totalement différent de l'hétérosexualité et de son poids. Et c'est ça que je voulais rendre compte. J'avais envie que les gens me racontent pas que leur coming in et leur coming out personnel, mais que ces personnes puissent me dire clairement, explique-moi, qu'est-ce qui fait que tu aimes l'autre ? C'est quoi le moment de bascule où tu sais que t'es tombée amoureuse, que t'es tombée amoureux ? Raconte-moi ça.
Léa Michaelis, vous avez aussi été membre des Coloreuses et vous avez publié avec Tei Kalanda en 2021 l'ouvrage « Notre colère sur vos murs », c'était chez De Noël. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement ?
Alors du coup, c'était un projet d'archivage depuis le début du mouvement des collages. Et avec un autre photographe, Asling, on était 3 photographes à majoritairement avoir le plus d'images sur Collage Féminicide Paris qui colle à Paris, mais aussi dans toute la France pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles et les violences d'État.
Et on arrive aujourd'hui à Safi Clovers, dont on va parler ce soir jusqu'à 21h. Vous restez avec nous, mais d'abord, on passe à l'actualité du mois de décembre 2024. Allez, c'est parti.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter.
Radio Campus Paris.
Une actualité culturelle ce soir, puisque Juliette, tu nous parles d'un film incontournable, Les Reines du Drame, un petit cadeau cinématographique pour la communauté queer. Et tu as rencontré Alexis Langlois qui réalise ce film.
Exactement, j'ai eu le plaisir de la recevoir. Son film musical queer est sorti le 27 novembre dernier. Ce premier long métrage raconte l'histoire d'amour passionné de Mimi et Billy, deux stars que tout oppose. Dans cette célébration de la pop culture des années 2000, on est plongé dans l'univers des deux chanteuses dont les aventures sont racontées par l'irrésistible youtubeuse Stevie Shady. Dans ce film à l'esthétique kitsch, c'est via l'artifice que se raconte l'intime. Les chansons, les décors et les vêtements se transforment en même temps que la destinée des personnages.
Quand les gens utilisent le mot kitsch, je trouve que souvent ça réduit à il y a des froufrous et des paillettes. Et là, certes, il y a des paillettes, mais il y a aussi de la colère. Et pour moi, le film est aussi profondément queer, profondément politique. Et même le fait d'utiliser le kitsch comme ça, c'est aussi presque en opposition à une obligation du naturalisme qui peut y avoir, par exemple, dans le cinéma français, surtout pour les premiers films.
Dans Les Reines du Drame, le regard porté sur les icônes pop des années 2000 est profondément tendre et bienveillant. Alexis Langlois fait référence à différentes divas, Britney Spears notamment, et nous amène à comprendre l'intériorité de ces personnages.
Le film est dédicacé aux divas has-been, et l'idée c'était aussi de faire une grande histoire, un grand mélodrame avec celles qu'on pense pas assez intéressantes ou un peu frivole pour ces grandes histoires-là. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment, j'ai envie que les spectateurs voient avec mon regard amoureux toutes ces chanteuses qu'on dit has-been ou ringardes, etc. Et le film dit, attention, pourquoi dès qu'on aime une icône, on est obligé de la détruire ? Et donc là, c'est ce qu'on a fait avec Britney Spears, c'est le temps qui a fait que on a un regard plus doux sur elle, mais là le film essaie de dire peut-être n'attendons pas 20 ans pour avoir un regard plus doux sur nos icônes, quoi.
Le film est donc queer sur le fond, avec une histoire d'amour lesbienne, sur la forme, avec cette comédie musicale camp et ce récit incarné par un Bilal Hassani au sommet de son art, et même dans sa production avec une équipe quasi intégralement queer. Des partis pris jugés visiblement un peu trop radicaux qui ont fait fuir les financeurs. Les Reines du drame a dû être tournées un peu à la hâte en 25 jours et en budget restreint.
C'est vrai que la dimension évidemment politique et communautaire a fait peur, et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, notamment je sais plus quelle chaîne de télé nous avait dit « Oh, on a fait un film de drag queen l'année dernière, on va pas en refaire un autre film qui, voilà, je tiens à dire, même s'il y a deux personnages de drag queen, mais qui sont assez quand même, c'est plutôt des rôles secondaires, c'est queer, mais ce n'est pas un film de drag queen. » Donc les gens, voilà, les hétéros mélangent un peu tout. Et puis eux, ce serait marrant qu'on leur dise « Bon, bah, Guillaume Canet a fait un film l'année dernière, bon, on va pas financer celui de Gilles Lelouch, quoi. » Mais bon, bref, le fait aussi qu'on soit toujours mis en comparaison comme s'il y avait un peu une seule place pour les personnes queer, ou d'ailleurs c'est pareil dans toutes les minorités, c'est vraiment, vraiment agaçant, voire même ça me met très en colère, parce que je pense qu'il y a des regards queer, et Dieu merci, tous les films queer ne ressemblent pas aux Reines du drame, et il faudrait pas qu'il y ait que ça. Il faut plutôt que ça ouvre la voie à d'autres cinéastes. Je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde et tous les récits.
Et pour que les Reines du drame continuent d'ouvrir la voie, le mieux, c'est d'aller découvrir le film dans les salles obscures. J'ai regardé tout à l'heure et il est encore diffusé au moins jusqu'à la semaine prochaine dans de nombreux cinémas en Ile-de-France, et on s'en réjouit.
Bah oui, donc voilà, plus d'excuses, il faut aller voir les Reines du drame. Léa Michaëlis, merci beaucoup Juliette. En tout cas, on peut écouter l'intégralité de cet entretien sur radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast. Léa Michaëlis, cette idée de différents regards queer, j'imagine que ça vous parle un petit peu, ce que dit Alexis Langlois.
Ah mais oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle, ouais, vraiment. Parce que il faut se libérer de certains regards, c'est un fait. Mais il y a une pluralité de regards, parce qu'il y a une pluralité de parcours. Quand on prendra en compte aussi que il y a autant de personnes différentes chez les personnes cis hétéro que chez nous.
Comme mais, nous ne sommes pas un bloc monolithique. Mais,
voilà, c'est ça. Et du coup, on a besoin de ces récits-là, de ces parcours-là et de ces regards-là pour raconter des histoires. Et moi, ce que j'ai fait personnellement, de prendre en photo des couples queer, j'ai rien inventé. C'est vu et revu de manière contemporaine. C'est tout à fait d'actualité. Et en fait, peut-être qu'on nous voit plus parce qu'on est en train de demander notre place, d'arracher notre place, en fait. Et dans tous les arts, et notamment dans le cinéma.
Je vous pose une question un peu compliquée quand on ne la prépare pas, mais j'ai envie de vous la poser quand même, parce que vous disiez, voilà, on a besoin de toute cette pluralité de regards. Est-ce que vous, il y a une œuvre artistique queer qui a libéré votre regard et qui vous a permis peut-être d'embrasser votre queerness? Vous avez dit qu'il y avait eu un éveil un petit peu à 20 ans.
Alors, niveau photo, j'ai vraiment grandi avec des classiques de la photo un peu boring, comme on dit, genre ouais. Robert Doisneau, Willy Ronis. Voilà, mais parce que il n'y a que ça, en fait, en vieille photographie connue. Après, moi, personnellement, oui, je pense que j'ai commencé à me poser des questions quand... Et ma mère aussi, elle s'est posé des questions, mais c'était très chouette. Quand elle a vu que j'avais une culture gay, en fait. J'ai pas de culture lesbienne. Moi, j'ai une vraie culture gay. Je voulais être un mec gay. Enfin, voilà, c'est du coup, j'ai cette culture-là musicalement, qui a été très, très forte. Je vais dire que c'est ça. Et en photo, ça va être plus sur le female gaze avec Charlotte Abramoff.
Avec
qui j'ai travaillé, et même avant ça, j'aimais son travail, et je me suis dit, ok, on peut faire de l'image en étant derrière l'appareil, mais en étant concerné et en portant un regard qui fait que on juge pas le modèle, on juge pas la personne qu'on prend en photo, et on la laisse être telle qu'elle est.
Merci beaucoup Léa Michaëlis, vous restez avec nous. On parlait des Reines du drame, le film d'Alexis Langlois à l'instant. Eh bien, on continue à en parler avec cet extrait de la bande originale. On écoute Go Musclé sur Radio Campus Paris. Il paraît que ça fait péder, mais j'y peux rien, ça me fait mouiller. Les pecs plus gros que des lolos, envie de lécher leurs abdos. Comme leur bébé, j'avoue, j'aime trop les gants musclés. Hugo Musclé, un extrait de la bande originale des Reines du Drame, une bande originale qui réunit un casting 3 étoiles avec des artistes comme Louise BSX, Yel ou encore à l'instant l'incontournable Rebecca Warrior, bien sûr, 20h17.
Why can't I say the word? I mean, why can't I just say
le lobby?
Susan, I'm gay.
Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Léa Michaelis qui vient nous parler de Sapphic Lovers, un recueil de photographies paru aux éditions Les Insolentes. Dans ce livre, on croise ma mère, mon ancienne colocataire et même la sœur de ma super copine Margot. Si j'étais un but de moi-même, je dirais que vous êtes totalement obsédée par moi, Léa Michaelis. Ou bien tout cela était un plan pour être invitée dans cette émission.
Oui, peut-être.
Bah oui, bien sûr.
Pour les gens qui n'ont pas vu ce livre consacré à Colin, du coup... C'est un ouvrage qui est très joli, c'est un écrin de tissu gris, il y a une belle pelisse, très élégante, charnue, on voit que c'est un objet auquel on a porté beaucoup de soins. Est-ce que vous le chérissez, cet objet, il représente quoi pour vous Léa ?
Je suis bien contente que le projet soit fini déjà, parce que c'est beaucoup de travail et pour moi le projet il fallait qu'il existe en livre pour... pouvoir exister aussi dans 20, 30 ans, pouvoir aller dans des archives lesbiennes, dans des archives LGBT, même s'il n'est pas réédité, qu'il y ait une trace physique, en fait, des photos que maintenant, on n'a que de la photo numérique, qui reste sur un ordi, sur des disques durs. Donc le but, c'était d'avoir un objet qui circule. Je sais que c'est un livre photo, donc il est quand même cher, mais qui puisse être en médiathèque, en bibliothèque, qui puisse aussi susciter des discussions, des conversations. Donc oui, je suis très contente. C'est un beau livre. J'ai été relou jusqu'à la dernière page auprès de la maison d'édition parce que je voulais un livre qui vieillisse bien aussi. Voilà. Donc, ils reprennent les codes du livre photo, qui n'est pas de choses trop excentriques, qu'on retrouve ce qu'il y a d'assez classique dans le livre photo. Donc, j'en suis très contente, j'en suis très fière.
Et le titre, Sapphic Lovers, pourquoi Sapphic et pas Lesbian Lovers en premier, pourquoi ce choix ?
Tout simplement pour inclure des personnes non-binaires, à commencer par la personne que j'aime et qui a initié ce projet. Et je voulais vraiment pas faire un projet qu'avec des personnes lesbiennes. Alors j'ai fait le choix qui est pas d'hommes cis gays représentés, parce que pour moi il y a beaucoup d'images de ces personnes-là. Mais surtout, ce qui était important pour moi, c'était d'englober les personnes non-binaires, les mecs trans, d'englober et aussi les personnes bi, en fait. Parce que des personnes qui pouvaient nous raconter que, par exemple, là, dans un instant T, dans la rue, ben, elles sont dans un couple lesbien, mais elles sont quand même bi. Mmh. Et du coup, j'avais pas envie d'écarter cette partie-là de personnes. Donc Sapphic, ça permet aussi d'englober ces personnes-là. Et vu que c'est un mot que pas tout le monde connaît, et qu'il faut prendre aussi en compte que dans la commune, on a des mots à nous qui parfois nous appartiennent et ne sortent pas de cette sphère-là, c'est important quand même qu'il y ait le mot lesbienne et autre histoire d'amour lesbienne, parce que même si c'est Sapphic, il y a beaucoup de lesbiennes dans le livre.
Et donc c'est un livre où il y a de la photo, on l'a dit, mais il y a aussi donc des témoignages, il y a du texte, les photographies se racontent elles-mêmes. Et dans ces textes, il y a des sons de cloche très différents. Il y a des personnes qui revendiquent et utilisent le mot lesbienne, qui l'adorent, qui s'en délectent. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne le trouvent pas beau, ce mot, qu'elles n'aiment pas l'utiliser, et voilà, qu'elles ne s'y retrouvent pas. Donc il y a plein de ressentis différents. Vous, Léa Michaelis, est-ce qu'il vous plaît ce mot ? Est-ce que vous l'aimez, le mot lesbienne ?
Oui, je l'aime, mais je pense que je l'ai assez embrassé pour m'en détacher et qu'il fasse moins partie de ma personnalité. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que j'ai eu une période obsessionnelle autour de la queerness et aujourd'hui, ça me bouffe moins, en fait. Mais c'est hyper positif, hein, quand ça nous bouffe et qu'on sent qu'on atteint quelque chose, qu'on est enfin soi-même, qu'on bouffe de la culture queer, c'est trop bien. Mais aujourd'hui, je sens que, ok, ça fait partie de moi.
Mais il y a peut-être autre chose aussi.
Il y a plein d'autres choses. Et du coup, c'est tellement hyper apaisé que, ouais, ça fait autant partie de moi que le fait que je sois une femme. Enfin, ça m'habite moins, en fait.
Tout à l'heure, vous disiez que de la photographie, des images d'hommes gays, on en a plein. C'est vrai que moi, quand on me parle de photos queer, j'ai les images des hommes photographiés par Nan Golding, ce livre magnifique, Loving, qui reprend des vieilles photos d'hommes homosexuels qui se photographiaient eux-mêmes dans les États-Unis de la fin du 19e, début 20e. Et en fait, de la photo lesbienne, ben, on en a moins. J'avais quelques références, mais en fait, ça, c'est moins évident. Est-ce que ce livre, il est aussi l'enfant de ce constat-là, d'une absence ?
Alors, peut-être, maintenant que tu le dis, en effet, parce que, bon, c'est une radio parisienne, donc je peux le dire, aller au sous-sol des mots à la bouche, est-ce que... Mmh. Rayon beau livre et photo, voilà quoi. Pour les mecs, il y en a. Mmh. Puis il y a de toutes les sortes, hein, pardonnez-moi. Mais du coup, pour nous, il y en a vachement moins. C'est pas tant que j'avais envie de faire un livre pour nous, c'est j'avais envie de rencontrer des gens, les prendre en photo, pas être dans un studio, pas être trop dans la mise en scène. Mais oui, en effet, c'est un constat et que je fais, que je faisais déjà avant et que je fais aussi en interview quand on me dit « qu'est-ce qui t'a inspiré ?» Ben, Jeb, peut-être, mm-hmm. avec le livre Eye to Eye. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est la vérité, c'est un fait. Et en même temps, est-ce qu'on peut parler aussi du fait qu'il y a beaucoup d'auto-éditions dans la communauté queer parce que les maisons d'édition sont frileuses. Voilà, parce que nous, notre spécialité en France, c'est de traduire et rééditer des essais qui ont 20 ans, qui sont sortis il y a 20 ans aux États-Unis. Et du coup, tout doucement, on fait ça en photo. Dans des librairies, par exemple, que moi j'ai vu à Édimbourg, bah, y en a des livres photos sur la queerness. Et aussi des livres photos de lesbiennes, des livres photos de lesbiennes avec leurs animaux. Mon rêve, vraiment, le prochain livre que je voudrais faire, enfin que j'ai essayé de faire aussi avec celui-là. Mais du coup, il y a des choses, c'est juste... C'est pas traduit, c'est niche. Voilà. Mais en fait, on produit, bien sûr.
Vous parliez de l'édition française et en fait, votre livre, il est publié à la collection Les Insolentes, c'est Hachette. Donc, c'est une maison qui est assez généraliste, qui est assez grand public. Ça vous fait quoi de vous dire que c'est une maison qui n'est pas connue pour un engagement débordant, qui s'empare de ce sujet-là ? Est-ce que c'est bon signe ou pas ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est bon signe parce que. Je sais ce que Hachette représente, mais je sais aussi avec qui j'ai travaillé directement en interne. C'est des personnes qui se sont battues pour que cette maison existe aussi chez Hachette.
Donc Les Insolentes, le label
Les Insolentes. Et c'est une maison qui a pas de... Je vais pas trop m'étaler sur le milieu de l'édition, mais en tout cas, j'ai été... très bien accueillie et je suis contente que ces livres-là existent et j'ai senti que c'était pas pour faire du féminisme washing ou du queer washing et que vraiment elles m'ont dit c'est ton livre, on fait ce que tu veux, j'ai pas eu de contraintes en réalité, voilà, et je pense que c'est important de le dire aussi parce que y a aucun mec aussi hein, chez Les Insolentes, y a des personnes concernées directement par le sujet, donc tu te sens pas vraiment dans les locaux d'Hachette. Donc après, moi, j'ai tendance à dire, tant mieux, Bolloré, il finance ça sans le savoir, presque. Voilà. Non, mais à un moment donné, faut aussi en profiter. Voilà, si on peut l'infiltrer de l'intérieur.
Alors, dans votre livre, Léa Michaelis, il y a beaucoup, donc on a dit une quarantaine de couples. Vous nous donnez à voir des lesbiennes dans leur quotidien, je dirais même dans leur intimité. L'intimité, mais aussi le désir lesbien, c'est un sujet qu'a creusé la journaliste Élodie Font dans À nos désirs, qu'elle a fait paraître cette année aux éditions La Déferlante. On l'a reçue dans notre émission, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'entretien qu'elle a accordé à notre journaliste Diego sur toutes les applications de podcast. On va l'écouter lire un extrait de son livre.
J'ai longtemps eu des difficultés à m'imaginer âgée et lesbienne. Je n'y avais jamais réellement songé jusqu'à l'écriture de ce livre. Jusqu'à ce que j'échange avec des femmes retraitées sur leur parcours, leurs envies, leurs désirs, et que je prenne conscience que c'était la première fois. À 38 ans, je n'avais encore jamais discuté longuement avec une lesbienne de plus de 50 ans. J'ai instantanément compris à quel point cette parole m'avait viscéralement manqué. J'ai été fascinée par leur émancipation, l'affirmation de soi par-delà les orages. La plupart d'entre elles racontent une vie à envoyer promener les injonctions. Pour moi, Être lesbienne, c'était et c'est une fugue, estime Régine, 68 ans, qui vit à La Réunion. Pouvoir être une femme et n'avoir ni mari ni enfant, vivre seule et dire merde à la société. J'ai été très heureuse dans la marge. Nous ne cherchions pas à être normales, mais à être nous, m'assure Catherine, et donc différentes. Ça nécessite un travail personnel de découvrir ce qu'on désire vraiment. Leur histoire est aussi la mienne. Elle recolle en moi des morceaux que je ne savais même pas déchirer.
Alors Léa Michaelis, la majorité des lesbiennes que vous photographiez dans Sapphic Lovers et qui témoignent dans vos pages, elles ont à peu près la vingtaine, mais c'est que la majorité, il y a aussi des lesbiennes un peu plus âgées. Elles sont un peu moins présentes dans votre livre. Qu'est-ce que le fait de les rencontrer vous a apporté de particulier dans votre travail ?
Bon, déjà, j'ai essayé que ce soit le plus divers possible, mais en faisant un appel par les réseaux sociaux, c'est vrai que le bouche à oreille a dû marcher ensuite pour des personnes qui n'étaient pas sur les réseaux. Mais heureusement, j'ai pas qu'un couple, j'ai plusieurs couples. Excuse-moi, j'ai perdu.
Qu'est-ce que ça vous a apporté de rencontrer ces lesbiennes qui sont d'une autre génération?
C'est d'autres histoires autour des influences, c'est d'autres rapports au coming in et au coming out. Ouais. Et ce qui m'a bouleversée aussi, c'était de pouvoir se dire, même si je le pensais déjà, que une personne queer ou une personne lesbienne, c'est pas juste la personne qui se sait depuis l'enfance. Ça, c'est un fait. Mais on a besoin aussi de récits de personnes qui se disent pas lesbiennes, mais qui sont perçues comme lesbiennes, qui se disent pas LGBT ou queer, enfin faisant partie de la communauté, mais en fait qui sont clairement perçues comme ça. Et je pense notamment au premier couple que j'ai rencontré, Sabine et Viviane, où l'une des deux, Viviane, dit qu'elle déteste ce mot, qu'elle n'est pas lesbienne, c'est elle, c'est sa compagne, qui fait qu'elle l'aime, elle. Et en fait, même si... en fait, cette personne-là, son témoignage, il est important aussi. Parce qu'il il raconte une génération, mais j'ai aussi rencontré des personnes plus jeunes qui s'en moquent de l'étiquette, qui n'aiment pas ça, qui appellent ça même une étiquette, ou qui pour lesquelles ça ne fait pas vraiment partie de leur personnalité, que ce n'est pas important. Et en fait, dans la communauté, je pense qu'on a besoin aussi de discours comme ça. Moi, j'ai mon avis sur le sujet, j'ai ma propre histoire, j'ai mon propre parcours, j'ai mes proches aussi, qui fait qu'on s'alimente dans des discussions dans lesquelles on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord sur ça, surtout quand on est militant. Mais j'avais envie aussi de rencontrer des gens qui politisent pas leur queerness, leur sexualité.
On continue à parler dans un instant de Sapphic Lovers, donc votre ouvrage photographique, Léa Michaelis. Mais d'abord, il est l'heure de retrouver Chat pour sa chronique, ou plutôt, devrais-je dire, Père Castagne. Et alors comme ça, Père Castagne, vous pensez avoir été assez sage pour enfin avoir des cadeaux cette année?
Moi, je vais faire semblant de ne pas voir la lueur de doute dans tes yeux, Colin. Méfie-toi, parce que je suis dans les petits papiers du Père Noël.
Ah tiens.
Ouais. Allez les lutins mutins, vous connaissez la chanson Touche ton cœur.
Père Castagne, raconte-nous une histoire. Père Castagne.
Oula. Ah la vache, je suis désolée. Mais j'ai chopé froid jeudi dernier à la manif de la fonction publique. 2-3 feux de poubelle en plus, ça aurait pas été du luxe. On se les pèle en manif en hiver, la vache.
Faudrait penser à rajouter quelques mouchoirs sur la liste au Père Noël.
Moi, j'ai déjà demandé un gouvernement de gauche, je voudrais pas abuser non plus. Par contre, tu sais ce que je vais mettre en plus? Un bon film lesbien de Noël.
Ah ouais?
Ouais, on est que le 10 décembre et j'ai déjà fait le tour de tous les téléfilms avec des Gwyn dedans. Et j'ai pas été difficile, hein. Même les trucs les plus pourris, j'ai regardé. Les marchés de Noël dans le petit village perdu au fin fond de l'Ohio. Les concours de maisons de pain d'épices avec tellement de bouffe que tu pourrais nourrir un continent. Les dindes en plastoc qui cuisent 1000 ans au four. Les pulls moches qui grattent même à travers l'écran. Les kilomètres de fausse neige et personne n'a les cheveux qui frisent. Tout, j'ai tout regardé. J'ai vu tellement de guirlandes, c'est moi qui clignote maintenant. Mais vous savez ce qui manque ? Un vrai bon téléfilm de Noël queer. Parce que l'histoire de la business Gwyn qui rentre dans son village paumé pour s'installer avec la goudou quechua du coin et ouvrir un diner, bon, ok, pourquoi pas. Mais on peut faire mieux. Déjà, j'aimerais voir des lesbiennes tatouées et poilues. Des transfemmes badass et des transmasques trop fiers de montrer leurs moustaches naissantes. Des PD de toutes les tailles. Et des butches, oui, des butches qui seraient les personnages principaux. Pas juste le love interest de Campagnard, de la Gwyn des villes. Des butches qui dateraient pas que des femmes. Et puis des billes et des pans qui datent qui elles veulent sans qu'on les emmerde. Bref, toute notre commu, quoi. parce que je sais pas vous, mais quand je regarde les téléfilms de Noël lesbiens, bah, on a l'impression que c'est les deux Solgoun des États-Unis. Alors qu'on sait de sources sûres qu'il y en a d'autres. Hein. Déjà, il y a mon ex, sa femme, son ex. Ok, donc c'est pas crédible.
Eh bien, lancez-vous, Père Castagne, tournez votre propre film.
Ouais, doucement, hein. Faudrait déjà que j'arrive à payer mon loyer et manger en même temps. Et pourtant, j'ai un rêve. Oui, je rêve d'un film de Noël avec plein de queer. Avec une Gwyn qui tient le bar asso du coin, où elle organise des drag shows. Son ex qui tient la librairie queer anarchiste en face. Ils sont meilleurs amis, évidemment. Un soir, l'équipe de Derby vient fêter leur victoire. Et là, c'est la rencontre. Paf ! Bien sûr, il y a quelques galères avec les ex de leurs ex, et le camion de déménagement qui ne démarre pas. Mais elles arrivent à passer les obstacles du dating lesbo queer. Quand soudain... Le maire de droite fait une dinguerie. Si, je vous jure. Les habitants avaient voté pour que le budget de Noël de la ville finance l'hôpital et l'école. Mais il a acheté un sapin, le bâtard. Plus de thunes. Alors tout le monde va en manif. Saccage du marché de Noël, les bourgeois en PLS, des pancartes vénères partout, de la lacrymo pour l'ambiance, le chaos et au milieu, la scène du baiser. Le titre, Noël, Antifa, lalala. Alors, cher Papa Noël, voici ce que je veux cette année. Et Macron démission, et Rugian en prison, et Darmanin aussi, et Marine aussi, tant qu'à faire. Bref, Daddy Noël, je veux des téléfilms de lesbiens, de Noël lesbien, anticapitaliste, et un gouvernement de gauche. Promis, je serai très sage. Enfin, je vais essayer. Ben, ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a une manif pro-migrant ce samedi, et il y a un rassemblement TDS mardi prochain. Mais Daddy, quand tu descendras du ciel, avec tes cadeaux par milliers... N'oublie pas mes grosses Rangers d'Antifa.
Merci beaucoup, Chat, pour cette chronique. Et d'ailleurs, de films de Noël, il sera à nouveau question dans le prochain épisode de notre podcast. Rendez-vous sur toutes les applications. Ce vendredi, Léa Michaelis est encore avec nous pour quelques minutes pour parler de Safi Clovers, un recueil de photographies paru donc chez Hachette, sous le label Les Insolentes. Des photos qui ont été repérées par Vogue.
Yeah.
Il faut nous en dire un peu plus.
Slay.
Yeah, American.
Slay. oui, alors... comment dire, j'avais participé pour envoyer une de mes photos il y a un an ou un an et demi.
Ouais.
Photo de la série qui avait été retenue comme photo du jour par Vogue International, c'est le Vogue Photo. Mmh. Et je me suis dit, la série elle est finie, on va tenter de l'envoyer à la rédac chef, enfin celle qui a monté Photo Vogue. Et elle m'a dit, je me souviens très bien de ta série. Elle m'a répondu 10 minutes après, elle m'a dit, je me souviens très bien de ta série. Ben, on publie ça mercredi 20, enfin c'était très précis, à telle heure. Je dis, ah ouais, direct. Et du coup, c'est vrai que moi, en interne, ça suscite un intérêt pour que potentiellement le livre soit traduit et sorte aussi de France, parce que... Je sens qu'en France, niveau média, c'est un peu frileux. Et là, je me dis quand même, en 3 minutes, j'envoie un mail à la rédac chef de Vogue. Et elle me dit, mais bien sûr, mais bien let's sûr. Go, j'adore. Enfin, je me dis, ok, enfin, décoincez-vous quoi en France.
Tout à l'heure, on parlait de la notion d'archive, enfin que t'étais contente que... Pardon, je te tutoie alors que je te vouvoyais,
non,
mais
non.
On fait n'importe quoi.
Tu disais
que...
Tutoie-moi.
Que tu étais contente que le livre existe en tant que livre parce que ça crée de l'archive. Dans ton avant-propos, enfin dans le livre, tu parles d'un documentaire qui s'appelle The Archivettes de Megan Rossman. C'est l'histoire des archives lesbiennes de New York où on collecte des textes, des images, même des objets du quotidien. Et tu dis que garder des traces, c'est faire communauté. Pourquoi ? Comment le fait d'avoir une histoire, enfin ça nous permet de savoir, enfin qu'on fait partie de cette communauté.
On a trop besoin. On a bien vu par le passé que rapidement, on pouvait détruire l'existence de certaines communautés, et notamment par l'image, par le texte, par la littérature. On a besoin aussi dans un environnement fascisant, mais partout, pas qu'en France, que quelque part soient stockés des petits bouts de nos vies. Et notamment là, par le projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait que les couples soient d'accord de participer, même en cas de séparation. Et aujourd'hui, il y a des couples qui ne sont plus ensemble. Et ça me fait vraiment penser à une scène dans ce film, dans The Archivette, où un couple est resté ensemble, je crois, une vingtaine d'années. Et alors qu'elles se disputent et que vraiment, c'est en train vraiment de partir en live et qu'elles sont en train de se séparer, il y en a une qui dit « jette pas ». toutes les lettres que je t'ai faites. Jette pas nos photos. Et en fait, on la voit quelques temps après témoigner et dire que quelques mois après la rupture, elle est allée tout déposer aux archives lesbiennes de New York. C'est tellement important. C'est tellement important. Parce que si nous-mêmes, on sabote nos archives, qui nous racontera ?
J'aimerais vous parler pendant, te parler pendant des heures, mais on va faire une dernière question avant de passer à la suite. Cet été, quand j'étais au Lézard, donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un festival lesbien. Je trouvais ça très émouvant de voir autant de couples de lesbiennes âgées au même endroit, des femmes avec leurs enfants. Et j'ai compris que ça me permettait de me projeter, de voir des futurs possibles, comme disait Elodie Font, quand on est lesbienne, de s'imaginer... vieille. Et en te lisant, ça m'a fait un peu pareil. Pourquoi, en fait, c'est si important, c'est si viscéral de se voir reflété, de se sentir identifié dans des supports culturels ?
Je pense que, pour rebondir sur ce que tu dis sur la vieillesse, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de représentation de lesbienne différente que de la lesbienne cis, femme ou alors femme butch. Il n'y a pas dans l'imaginaire, donc c'est quoi une vieille gouine en fait? Est-ce que c'est forcément la butch, enfin même pire, genre comme on dit, genre camionneuse? Est-ce que c'est une femme qui a été trompée plein de fois par son mari, alors du coup elle finit avec sa meilleure amie? Enfin en fait on a cette... Non mais c'est dur, donc évidemment qu'on a besoin de plus de représentations pour pouvoir se projeter aussi, mais c'est ce que font les hétéros et on a juste besoin de la même chose, et idem pour les personnes trans en fait. Donc, oui, je sais pas si je peux aller plus loin dans ta question, mais je pense que...
Moi, en parcourant Sapphic Clovers, Léa Michaelis, je pensais à l'autrice Hélène Giannichini, qu'on n'aura pas le temps d'écouter parce que je vois que l'heure tourne, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle Un désir démesuré d'amitié, où elle raconte notamment sa découverte avec des photographies. Alors, elle parle de la photo d'un couple d'hommes. Comme elle est historienne de la photographie, elle a réussi à dater cette photo des années 50, mais il y a plein de choses qui lui manquent dans l'histoire de ces deux hommes. Elle aimerait connaître leur relation, comment ils se sont rencontrés à une époque où l'homosexualité n'est évidemment pas vécue de la même façon qu'aujourd'hui en 2024. Et à chaque fois qu'il y a des trous un petit peu dans leur histoire, elle utilise la fiction pour raconter leur histoire. Et moi, je voudrais vous demander, moi aussi, je ne sais plus si je tutoie ou je vous vois, quel rapport est-ce que vous entretenez avec les gens que vous photographiez, avec ce que vous dites, cette conscience que ça crée aussi de l'archive, ça documente quelque chose. Quel rapport vous avez entretenu avec les gens que vous avez photographiés?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans l'instant T, et ça, j'y avais pensé, parce que forcément, le texte va plus loin que l'image, mais la photo raconte aussi quelque chose du coup par l'espace dans lequel je prends les gens en photo, dans quel cadre, quelle pièce vous êtes OK de me montrer chez vous, est-ce que vous faites attention à ce qu'il y a derrière ou pas du tout, est-ce qu'on fait ça complètement sur le vif, est-ce que je vous sens à l'aise sur l'image, donc est-ce qu'on continue le shooting, ou est-ce que vraiment vous me laissez 2 minutes montre en main et terminer. Tout ça, c'était des choses à prendre en compte, mais aussi dans l'entretien, moi j'ai laissé la liberté au couple de, bien sûr, j'ai fait des sélections d'extraits, c'est-à-dire que je notais pendant l'entretien des moments où je me disais, oula, ça, je garde. Mais après, moi, je réécoutais l'extrait, je faisais des coupes. Et après, la personne, elle avait totalement la possibilité de même retravailler son extrait à l'écrit. Donc, il y a de la réécriture, il y a des choses qui n'ont été pas dites, il y a des choses qui ont été enlevées. Le but, c'est que les gens se sentent bien aussi avec ce qu'elles m'ont raconté. Donc, il y a parfois des coupes qui ont été faites, des choses qui me manquent dans l'histoire, mais de toute façon, c'est forcément subjectif. Voilà.
Eh ben merci beaucoup, Léa Michaelis, d'être passée dans l'émission. On va continuer cette émission. Pardon, j'ai eu une absence. J'ai croisé le regard de Mal et d'un seul coup, je n'étais plus le même homme. Mal, on va passer à ta chronique. En fait, je panique aussi parce que je ne retrouve pas ton lancement. Parce que je pense que je l'ai écrit après avoir imprimé. Mais je crois qu'en gros, tu vas nous raconter ta première, ta deuxième, ta troisième puberté. Je ne sais plus, j'ai perdu le compte.
Oui, c'est ça. Alors, je vais commencer par la première. Quand je suis avec mes copines cis, je fais parfois tâche dans certaines discussions. Elles ont souvent envie de dire que des fois, les mecs se comporte comme des trous du cul. Mais pas toi, Mal, toi t'es pas un trou du cul, toi t'as vécu comme une fille, alors tu comprends.
Alors là, erreur sur la marchandise, moi je peux être un très grand trou du cul, hein, voilà.
Et tu as le droit.
j'ai le droit. Alors entendons-nous par trou du cul, on peut aussi penser ça en termes, en tant qu'homme trans et blanc aussi, il faut le dire, j'ai gagné un arsenal de privilèges et d'opportunités pour me comporter comme un con en toute impunité. Et puis, au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'expérience universelle d'être une fille, alors entre R guillemets, hein, d'autant plus que quand on est trans, il n'est pas rare que dans notre expérience, on soit fortement influencé par notre transidentité avant même qu'on puisse mettre des mots dessus. Et c'est là où je vais vous raconter ma première puberté, qui était complètement dézinguée. Voilà, pour citer le premier furry de l'histoire, Jean de La Fontaine, je me trouvais fort dépourvu lorsque l'œstrogène fut venu. La première fois que j'ai eu mes règles, alors là c'était nickel, parce que j'avais regardé tous les épisodes de C'est pas sorcier. Donc ma base théorique, elle était on ne peut plus affûtée pour un ado. Au passage, c'est rarement le cas, donc il y a peut-être un sujet à s'approprier du côté de l'école, voilà, l'éducation à la vie sexuelle. Voilà, c'est pas Jamy qui va tout faire.
Notre gouvernement démissionnaire.
Et donc en termes de sensations, mon corps m'a totalement gaslight sur mon utérus. Moi, j'ai rien senti, c'était juste flou. Et puis récemment, j'ai appris que des gens qui ovulaient pouvaient sentir le moment où ça se faisait. Et de quel côté ça se faisait. Donc il y a des gens qui savent le faire en stéréo, moi je le fais à peine en mono, il doit manquer un branchement. Mais le clou du spectacle, accrochez-vous chers auditeurs, ça doit être le stérilet. Alors petite parenthèse, c'est pas sorcier, hein. Un stérilet c'est un petit objet en forme de T qui se loge au calme dans l'utérus et qui empêche les grossesses. Le problème c'est qu'il faut le mettre dans l'utérus et c'est pas l'endroit le plus accessible du corps. Autant vous dire que la pose d'un stérilet, ça a tout d'une séance de fist avec le capitaine Crochet.
Oh non.
Ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille tout de même. Premièrement, le capitaine Crochet, c'est une personne relativement problématique, qui kidnappe des enfants et qui les donne à manger vivants à des crocodiles. Donc on peut imaginer qu'en termes de partenaire sexuel, il n'est pas très safe. Deuxièmement, c'est extrêmement douloureux, un fist du capitaine Crochet, de la main où il n'a pas de main, voilà. Tout comme la pose d'un stérilet, donc. Mais ça, en général, tout le monde s'en fout, vu que ça touche des personnes avec des utérus. Donc c'est en général pratiqué sans anesthésie, sans antidouleur, voilà, c'est terrible. Le truc, c'est que moi, j'ai appris ça après coup, en fait. Moi, j'ai rien senti. Et alors, ça peut sonner comme un énorme flex, mais moi, je trouve ça effrayant. Enfin, y a pas un monde où tu restes de marbre face à un fist du capitaine Crochet. Donc je me pose vraiment des questions. Et en fait, c'est un peu de la cerise sur le gâteau, tout ça, d'une totale déconnexion avec une partie de mon corps, hein, issue, pour vous la faire courte, de la transphobie et de la misogynie ordinaire, entre autres. Waouh, quelle ambiance. Tout ça pour dire que si j'avais pas écouté le ressenti d'autres personnes sur ce sujet, j'aurais eu du mal à prendre au sérieux des questions de... des problématiques liées à l'endométriose, aux violences gynécologiques, et j'en passe, et ça sur plein d'autres sujets. Mon message de fin, c'est on arrête avec cette idée et on n'hésite pas à se remettre en question dans la vie de manière saine. C'est chouette et c'est pas parce qu'on est transmasque qu'on est immunisé à la misogynie et au sexisme.
Merci beaucoup Mal pour cette chronique qu'on réécoute donc à tout moment sur le site de radiocampusparis.org à la page du lobby. Après cette séance de fist par le capitaine Crochet, on va parler de Shibari. A priori, aucun lien.
J'espère.
Tu es partout ce matin. Tu es dans tout ce que je regarde la mer, les abricots sont mûrs. Je repense à hier, quand je t'ai vu nu dans la rivière. Tu es partout dans le jardin. Je t'ai tué, c'est tout que je retiens. Le soleil brille
partout. C'est extrait du prochain album de Laura Cahen, apparaître le 24 janvier prochain. Elle sera d'ailleurs le soir même en concert à l'Hyper Weekend Festival, c'était la Maison de la Radio, dans le 16e arrondissement de Paris, 20h48.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Yeah. Alors on était dans l'intimité des lesbiennes à l'instant avec Léa Michaelis et on va un cran au-dessus si je puis dire puisqu'on parle à présent de Shibari alors qu'un atelier d'initiation aura lieu ce samedi à la Mutinerie. Zoé, tu es avec Anna et Aël qui vont proposer cet atelier.
Tout à fait, donc bonjour à vous. C'est quoi le Shibari ?
J'adore cette question. En fait, le Shibari, qui est inspiré bien sûr par le ligotage militaire japonais médiéval, tout ça. Pour l'instant, je pense que le Shibari contemporain n'a quasiment rien à voir avec ce ligotage militaire. Pour moi, c'est plutôt la pratique érotique qui était née au début du XXe siècle, au Japon aussi, mais qui s'est développée en autonome. Et donc, je ne dirais même pas qu'il y a d'appropriation culturelle là-dessus, parce qu'en fait, c'était développé en Occident en même temps. Donc, pour moi, c'est plutôt un art et une pratique, je ne dirais pas thérapeutique, plutôt bienfaisant. C'est un peu mal vu le mot thérapeutique dans le milieu des cordes, donc on évite.
Et donc toi, Anna, ton pseudo sur Insta et ton pseudo scénique, c'est RopeMe, rope comme corde en anglais, et tu es accompagnée de Aël, qui est ton assistant et ton modèle. Comment vous avez commencé à faire du shibari ensemble ?
Avec Aël, on a un peu pratiqué ensemble, mais c'est surtout... comment on a pratiqué ensemble déjà ?
Au début, on s'est rencontrés parce que tu avais besoin de modèles justement pour des cours de shibari, cours un peu plus avancés où tu commençais à faire de l'extension.
J'ai complètement oublié.
Et après, je l'ai un peu suivi comme ça en tant que modèle.
Et franchement, je suis reconnaissante à elle de participer à l'atelier avec moi parce que sans assistance, ça aurait été impossible de gérer. Seul.
Et donc là, l'atelier que vous proposez le 14 décembre, c'est un atelier d'initiation. Donc c'est à destination de qui ?
L'atelier est conçu pour celles qui n'ont jamais tenu une corde entre les mains et aussi à des gens qui ont déjà fait leur premier note base. Moi, j'apprends à manier la corde, à mettre de la tension dans les cordes et j'apprends aussi une technique de contre-tension qui en gros permet d'attacher tout le corps de la tête aux pieds. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est que les gens apprennent un truc vraiment complexe. C'est pas un atelier de play. J'aime bien quand on dépasse un peu nos limites et quand on a l'impression qu'on a appris quelque chose d'important. Donc l'atelier dure 2 heures, c'est divisé en plusieurs exercices et à la fin, c'est un peu une pratique libre, un peu une partie freestyle, quand les gens font marcher leur imagination pour appliquer les techniques qu'on vient d'apprendre. Et en vrai, ça me fascine de regarder les gens créer, parce qu'à chaque fois, je suis juste impressionnée par la créativité des participants.
Et j'ai vu que vous fournissez les cordes. C'est quoi comme type de corde pour quelqu'un qui ne voit pas du tout ce que c'est ? Oui, c'est sponsorisé par Castorama.
D'habitude, on attache avec les cordes en jute ou en chanvre. On n'attache pas avec les cordes de Décathlon, c'est forcément
C'est plus doux.
Histoire vraie, hein, cordes de Décathlon. Une personne qui s'est vantée d'attacher avec des cordes Décathlon, mais ça ne doit pas être très agréable.
Et je parle un peu du matériel, des mesures de sécurité, de tout ce qui vient avec le shibari au début de l'atelier. Et à la fin, j'envoie d'habitude une liste des écoles où on peut poursuivre l'apprentissage si on a envie de continuer. Moi, je donne qu'un seul atelier par mois à la MUT. Mais sinon, il y a beaucoup d'endroits queer, en fait, en ce moment à Paris, où on peut apprendre, notamment Porte d'Attache. C'est une super école. Et moi, je suis très contente, en fait, que les mecs cis n'ont plus le monopole d'apprentissage des cordes. C'est assez chouette.
Moi, j'ai juste une question, parce que là, vous disiez les cordes Décathlon, il faut se méfier, c'est très douloureux. Mais donc, il faut rappeler aussi que ça doit être une pratique agréable. Il n'y a pas du tout une question de souffrance qui rentre en compte, ou si, je ne sais pas.
Ça dépend de vos envies.
Ouais,
okay. ça dépend de votre but. Moi, au début, j'étais passionnée par l'effet bienfaisant thérapeutique des cordes, le soulagement de l'anxiété.
Parce que c'est quoi ? C'est un relâchement ? C'est le fait de se relâcher un peu dans le vide comme ça ? Ça libère un truc ?
Je pense que la contrainte qui est suivie par le relâchement permet de bien lâcher prise, de reconnecter avec son propre corps et de soulager l'anxiété. C'est un vrai effet des cordes. Et ça a beaucoup impacté ma pratique, mais Shibari, c'est beaucoup plus riche que ça. Donc, on va pas se limiter par.
Mais d'ailleurs, du coup, tu disais qu'on en voit de plus en plus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution de la pratique depuis quelques années dans les milieux queer ? Comment expliquer cet amour du shibari ?
Moi, ça fait que 5 ans que j'attache. Et j'ai déménagé en France il y a 7 ans, donc je ne pourrais peut-être pas donner un récap de tout ce qui s'est passé depuis ces années-là. Mais en gros, je vois beaucoup de demandes. On a vraiment beaucoup de demandes des gens qui veulent participer à l'atelier. Et c'est aussi dû au fait que les gens peuvent venir en solo. Dans la plupart des écoles, il est obligatoire de venir en binôme. Et là, cet atelier, en fait, est fait pour les gens qui cherchent leur partenaire de corde, surtout. Pour pratiquer en sécurité avec quelqu'un que vous peut-être connaissez pas encore. Donc, c'est un endroit safe.
Et qui a vocation à devenir un genre de partenaire régulier de corde. Enfin, c'est un,
bah,
c'est,
si non. C'est un match, c'est un match.
Ok.
Est-ce que vous pourriez nous donner un souvenir un peu marquant d'une séance comme ça, quelque chose qui vous a particulièrement plu
d'un
ou qui
atelier?
Était assez, ouais. Toi, en tant que du coup.
Moi, la toute première fois, moi je suis TDAH, la toute première fois j'ai pris du Ritalin pour ne pas perdre la piste. Et j'ai senti qu'à un moment, j'étais en train de me transformer en monstre workaholic qui n'a aucune empathie, qui va continuer depuis des heures. Et Aël était là pour moi, pour, pour un peu...
Bah, je pense que tu as surtout la vision très... technique et sur le moment des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire, mais je sais pas, j'essaye d'apporter un peu plus de relâchement et de quand même garder le rythme, parce que 2 heures ça paraît un peu court quand même quand on
finit tous en PLS.
C'est sportif en fait,
c'est assez physique. Surtout le fait de devoir garder la tension. Je répète ce mot tellement pendant l'atelier que les gens deviennent allergiques à la fin, je pense.
Le mot tension. Et ça veut dire qu'il faut venir avec une tenue en particulier ?
Un tenue près du corps, c'est bien. Okay. Tenue type yoga. Venez habiller, s'il vous plaît. C'est pas un atelier de play.
C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent nus.
Il y a des gens qui demandent si c'est obligatoire de venir nu.
D'accord. Enfin, ah oui, non.
Moi, bon. J'étais pas en fait.
Rassurez-vous. Et pourquoi la mutinerie ? Parce que ça aura lieu donc ce samedi 14 décembre à la mutinerie.
Bah, en fait, à l'époque, c'était un de mes partenaires, un ancien partenaire qui travaillait là-bas, qui me proposait cette opportunité. Et c'est une blague de merde. Je dis que je suis embauchée par Lully. J'aime bien ce mec. Donc, en fait, merci beaucoup au bar parce que c'est vraiment. Il joue bien le rôle de médiateur, je trouve. Et la visibilité des cordes, c'est pas quelque chose de. D'évident, surtout quand vous cherchez sur internet le shibari, vous tombez surtout sur le porno et jamais sur les vrais comptes des gens qui le font, parce que Instagram, c'est une plateforme qui restreint beaucoup tout ce qui est un peu relié au kink. Du coup, merci beaucoup à la Mute.
Eh ben oui, merci à la Mute, et puis merci à vous, Anna et à elle. Léa Michaelis, je vous ai vu écouter religieusement cet entretien. C'est un prochain sujet d'œuvre photographique, le shibari chez les personnes queer.
Pas vraiment, mais je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Donc je suis très contente de vous avoir écouté.
Voilà. Et rendez-vous donc à la mutinerie ce 14 décembre, ce samedi 14 décembre. Et puis à 22h, la mutinerie accueillera le DJ set de Mireille Dark. Voilà, comme ça vous saurez tout. Merci beaucoup à toi Zoé. C'est déjà la fin de l'émission. Peut-être un petit tour de table, de petites recommandations, de choses à faire, à voir, à découvrir. On commence avec toi Antonella par exemple.
Oui, moi je vous conseille très très fort le film Lesvia de Zeli Hadji Dimitriou. Il passe pas en salle, il faut le guetter dans les festivals. Et c'est un film. Enfin, Zeli, elle est lesbienne parce qu'elle vient de Lesbos en Grèce et parce qu'elle aime les femmes. Oh. Et dans son film, elle raconte en fait l'histoire en fait des lesbiennes qui sont allées dans les années 70 sur cette île pour faire la fête et être libre. Et c'est super.
À découvrir donc, merci. Char, une autre recommandation.
Alors, c'est pas pour tout de suite, mais le 25 janvier, plusieurs associations féministes, dont les féministes révolutionnaires, organisent une journée antifa féministe. Plein de conférences super cool avec des gens trop stylés.
Ça se passe où?
Bah,
à
plus
voir.
D'infos à
voir. D'accord, très bien. Zoé, une petite recommandation.
Oui, moi c'est une exposition qui a lieu au Crédac d'Ivry jusqu'au 14, donc dépêchez-vous, ça s'appelle Correspondance entre Angela Davis, Toni Morrison et Audre Lorde, donc deux lesbiennes sur trois protagonistes. Il y a des très belles photos et un énorme recueil de photos d'archives compilées par l'historienne Elvan Zabunyan, j'espère que je dis bien son nom. Mais c'est surtout la médiation culturelle qui est faite autour de cette exposition qui est intéressante parce que c'est avec deux établissements scolaires d'Ivry et vous pourrez voir des œuvres d'ados qui sont inspirées par ces trois femmes. Voilà, donc la transmission lesbo-féministe littéraire, moi ça m'a beaucoup plu.
Bah oui, tu m'étonnes. Et bah voilà, super ce petit agenda. Merci à toute l'équipe du Lobby. Côté studio, il y avait beaucoup de prénoms à trois lettres, comme par exemple Mal, Chat et Zoé. Quelques prénoms un peu plus longs, comme Juliette et Antonella. Côté régie, un grand merci à Suzanne Sinca à la réalisation. Dans un court instant sur Radio Campus Paris, on part au pays des rêves. Salut Elodie.
Oui, ce soir, on va parler de l'engagement politique des acteurs et des actrices de la scène électro. Donc restez connectés parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
Eh ben super, merci. C'est à 21h jusqu'à 22h30, c'est bien ça?
Jusqu'à 22h.
Jusqu'à 22h, autant pour moi, c'est dans un court instant. Le prochain épisode de notre podcast, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, c'est ce vendredi avec un épisode spécial Noël en compagnie de l'humoriste Mamari. On parle de films de Noël, on parle de queer et Noël, on parle de passer Noël en famille choisie, notamment à la Mutinerie qui d'ailleurs le 24 décembre organise voilà, un petit repas de fête le soir pour les personnes queer qui n'ont pas de famille biologique avec qui fêter Noël. Voilà, allez à la Mutinerie. Et puis d'ici là, on continue à se suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt tout le monde.